5,4 millions de Canadiens reçoivent actuellement l'aide du gouvernement fédéral en ce temps de COVID-19. Et évidemment, ça fait de l'argent qui rentre dans les poches des citoyens. Tant mieux, c'est bien correct. Mais le gouvernement a déjà annoncé que c'était des montants imposables. Alors, il y a des questions, évidemment, qui se posent, puis vous avez peut-être besoin de réponses. Combien d'argent vous devez mettre de côté pour pas vous faire le saut quand le gouvernement va vous dire que c'est le temps de passer à go et qu'il va réclamer son dû? On en parle ce matin avec Olivier Lévesque, qui est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour, Olivier.
Bonjour, bon matin.
Alors, donc, 2 000 $ par mois, mettons qu'on reçoit ça durant 3 mois, ben, ça fait 6 000 $. Alors, combien devrait-on mettre de côté pour pas avoir de surprise lorsque viendra le temps de faire notre prochaine déclaration de revenus?
Oui, ben, vous avez bien fait de le mentionner en introduction. À la prestation canadienne d'urgence, donc communément appelée la PCU, de 2 000 $ par mois que vous pouvez réclamer pendant 4 mois maximum, hein, soit dit en passant, elle est imposable. Donc, elle est imposable à quel pourcentage? Eh bien, si vous gagnez ce montant en plus d'un petit revenu d'emploi qui vous situerait en bas des 45 000 $, donc vous seriez imposable à 30% sur ce montant-là. C'est important de préciser, par contre, que il y a certaines mesures dans la loi qu'on appelle les crédits de base qui sont offerts à tous les particuliers, donc qui font que si vous avez gagné moins de 15 000 $ théoriquement, tous vos revenus ne sont pas imposés. Par contre, le premier taux d'imposition pour la prestation canadienne d'urgence serait à 30%.
OK. Alors donc, quand on reçoit 1 000 $ ben il faut en mettre 300 de côté.
Ben, grosso modo, oui, mais ça, c'est effectivement si vous passez au-dessus du fameux crédit de base, là, c'est sûr qu'il y a toute une mécanique avec ça, mais c'est sûr que si on y va dans le chiffre pour chiffre, là, en considérant que chaque dollar est imposable, oui, effectivement, 30 $ pour chaque 100 $.
100 $. C'est l'argent que vous devrez vous garder parce que, évidemment, quand viendra le temps de faire votre déclaration de revenus, vous serez imposé là-dessus. C'est la même chose pour l'assurance-emploi?
Pour l'assurance-emploi, oui, c'est effectivement la même chose, donc est également imposable. C'est sûr que ces temps-ci, on parle beaucoup plus de la subvention, de la prestation canadienne d'urgence, parce que toutes les demandes qui ont été soumises depuis le mois de mars sont soumises à la prestation canadienne d'urgence pour faciliter le traitement à l'Agence du revenu du Canada.
OK. Alors, ça, évidemment, c'est quand on va faire notre rapport d'impôt pour l'année 2020. Parce que là, vous l'avez fait ou vous l'avez peut-être pas encore complété, mais vous en avez un à faire pour votre année d'imposition 2019. Dans les mesures annoncées pour les entreprises, y a-tu des pièges, c'est un grand mot, là, mais y a-tu des fois les détails sont écrits en petits caractères, y a-tu des surprises là-dedans?
Ben, il y a quelques affaires qu'il faut faire excessivement attention, hein. Donc, si on parle de la première mesure la plus importante, celle qui a eu le plus d'encre décrite à son sujet, la subvention salariale d'urgence du Canada.
Oui.
C'est ce qu'on appelle communément la subvention de 75% du salaire, parce qu'en fait, cette subvention peut atteindre jusqu'à 75% du salaire d'un employé par semaine. Bien sûr, il y a un maximum qui est à 847 $ par semaine. Donc, si on y va pour un total d'une semaine, un travailleur qui gagne 1 130 $ par semaine va donner une subvention complète à son employeur. Donc, 1 130 fois 75% égale le maximum de 847 $. Donc, cet employé-là coûte à l'employeur 283 $. Pour être admissible à cette subvention-là, bien sûr, il faut respecter certains critères. Donc, il faut avoir eu une baisse de revenus en mars 2020 de 15%, comparé soit à nos revenus de 2019 pour mars ou nos revenus de 2020 janvier-février, la moyenne des deux, et une baisse de revenus de 30% pour les mois d'avril et mai. Ces calculs-là peuvent être faits selon diverses méthodes. Le gouvernement a voulu que plusieurs entreprises soient admissibles, donc l'étendre à vraiment la majorité des employeurs. Donc, c'est certain que cette subvention-là, c'est la plus grosse, la plus importante, celle qui va être le plus coûteuse pour nos poches de contribuables quand va venir le temps de faire nos impôts à l'avenir. Et on parlait de pièges,
oui.
Il y en a un. Comme je vous disais, la subvention est de 75% du salaire versé à un employé. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui arrive avec le 25%? Est-ce qu'on est obligé de le payer?
Oui.
Eh bien, là est tout le piège de la subvention. Il est écrit, et le gouvernement souhaite, que l'employeur démontre qu'il fait tout en son possible pour payer le 25% d'écart. C'est donc là où il y a une petite zone grise. C'est pas dit qu'il faut le payer, mais il faut démontrer qu'on fait tout en notre possible pour le payer. Bon, quand on va arriver à la vérification des subventions qui ont été données aux entreprises, moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va justifier qu'on était capable ou pas de le payer, advenant le cas où on l'ait pas payé.
Mm-hmm.
Donc, voici un peu ce qu'il y en est, là. Ceux qui sont capables de payer le 25%, c'est certain que pour éviter toute vérification ou toute argumentation qui pourrait être dans une zone assez grise, c'est sûr qu'on va suggérer de le payer, hein, parce que on peut pas. On sait que c'est un critère qui est pas écrit noir sur blanc, c'est un critère qui est assez difficile à prouver. Donc, c'est sûr que ceux qui sont capables de pas prendre la chance d'avoir argumentation à ce niveau-là, on va suggérer de le faire, c'est certain. Pour ceux qui, effectivement, sont pas capables et qui devraient aller souscrire à un prêt pour payer ce 25%-là, ben là, je pense qu'on est capable d'argumenter puis qu'on commence à avoir un petit peu de jus pour dire, ben écoutez, j'étais pas capable de le payer, mais je voulais que mon employé travaille. Donc là-dessus, il y a certainement des belles causes qui vont être amenées en vérification et peut-être éventuellement dans les tribunaux sur ce 25%-là.
Je comprends. Le gouvernement a invité les employeurs à garder leur personnel pour donner de la formation. On sait que 1% de la masse salariale, je pense, d'une entreprise doit être versé en formation. Y a-tu des risques avec tout ça ou
Ben en fait, est-ce qu'il y a des risques Pas tant que ça, parce qu'en fait, le but, comme vous l'avez dit, c'est de ramener les employés sur la liste de paye. Hein?
Right.
Donc, advenant le cas où vous ramenez un employé pour suivre de la formation, il va donc effectuer du travail pour vous. Et puis, le Québec a justement lancé un programme visant le maintien en emploi afin qu'on leur donne de la formation. Donc là-dessus, le Québec vient tenter de pallier au 25% avec une subvention pour que les employés se forment en compétences numériques, en enjeux sanitaires, en communication organisationnelle et en savoir-faire. Donc la subvention, c'est de 50 à 100% des dépenses admissibles. Donc, advenant le cas où on a besoin d'acheter des ordinateurs, de payer des formateurs, du déplacement. Et puis, le Québec s'engage également à subventionner 25, 90 ou 100% de la rémunération payée aux travailleurs. Ce fameux pourcentage, pourquoi je dis 25, 90 ou 100%, c'est parce que ça dépend du pourcentage qui va être accordé au fédéral. Donc, vous voyez, il y a plusieurs mesures qui s'entrecoupent, ce qui fait que c'est un puzzle assez intéressant à jongler ces temps-ci au travail.
Mais il peut être avantageux pour plusieurs entreprises de bénéficier de ces programmes actuellement.
Ben oui, c'est certain. C'est des mesures actuellement qui sont là pour que l'économie canadienne continue de bien prospérer et puis qu'on n'ait pas un taux de chômage qui soit incroyablement haut à la fin de la crise. Donc, ces mesures-là incitent les employeurs à justement continuer à payer leurs employés à un coût qui est beaucoup moindre. Donc, j'en parlais tantôt, la subvention de 75%, si on paye un employé 1130 $ par semaine, il nous en coûte seulement 283 $ plus les cotisations de l'employeur. Donc, c'est pas quelque chose d'énorme comme coût pour garder un employé à son emploi,
ouais,
justement.
Puis là, si on donne de la formation en plus, ben on va toucher, entre autres, une enveloppe du gouvernement du Québec qui fait en sorte que l'employé reste à notre emploi et il ne nous coûte rien.
Ben exactement. Et puis, en plus, il y a une petite subtilité également dans la subvention d'urgence du Canada, donc la subvention de 75%, si jamais on réengage nos employés, mais qu'on n'a pas de travail pour eux, bien, il y a une subvention additionnelle pour la totalité des cotisations de l'employeur qui est versée si l'employé n'effectue aucun travail. Donc, l'assurance-emploi, la RRQ, le RQAP, toutes ces cotisations-là, le gouvernement fédéral les paye à notre place si jamais notre employé ne fait aucun travail et est assis à la maison, mais qu'on veut quand même continuer de le payer parce que c'est un bon employé qu'on veut garder.
Alors, j'imagine que le téléphone du fiscaliste doit sonner quand même pas mal. Il y a sans doute des entrepreneurs ou des entreprises, des propriétaires d'entreprises qui vous appellent pour essayer de tout comprendre, tout ce jargon-là actuellement.
Ben oui, comme vous le comprenez, là, c'est assez difficile à vulgariser, mais c'est également aussi difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. Donc, c'est certain que le téléphone ne dérougit pas et puis que la majorité de notre temps est passé sur ces mesures-là. Donc, on est beaucoup à l'affût des conférences de presse de messieurs Trudeau et Legault.
Ouais. Olivier Lévesque est également président du conseil d'administration de la Traversée. Il y a eu une information qui est sortie, évidemment, là, un peu avant le début du week-end de Pâques, à l'effet que le gouvernement demandait là, à tous les événements festivals de reporter ces 10 événements là, jusqu'au 31 août prochain. Alors, ça vient contrecarrer tout espoir que vous aviez au niveau de la Traversée de pouvoir tenir quand même certaines activités cet été.
Ben effectivement, comme on s'était parlé dans les dernières semaines, ce que je vous répétais, c'est que on attendait directives du gouvernement. On avait plusieurs scénarios sur la table. Par contre, on savait que nos scénarios nous seraient imposés, donc soit par la FINA, soit par le gouvernement du Québec. Donc, nous avons un conseil d'administration ce soir pour discuter de ce point-là, mais je vous l'avais dit, nous n'irons pas à l'encontre des ordres du gouvernement. Donc, vous êtes un petit peu capable de deviner ce qui va ressortir du conseil d'administration ce soir. Effectivement, je pense que les chances d'avoir une 66e traversée, à tout le moins l'aspect culturel ou festif, ont été amenuisés de beaucoup, pour ne pas dire en entier, lorsque l'annonce a été faite par le gouvernement du Québec vendredi dernier.
Déçu?
Très déçu, c'est certain. On espérait pouvoir être capable d'organiser à tout le moins l'aspect culturel pour pouvoir redonner à la population, pour pouvoir donner une petite fête également à la population. C'est important. On est en temps de confinement où c'est pas toujours rose d'être à la maison, c'est pas toujours plaisant. Donc, on espérait être capable de pouvoir donner un petit peu d'espoir ou un petit peu de quelque chose à faire pour les gens cet été. Alors, c'est certain qu'on est déçu.
Olivier Lévesque, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Olivier Lévesque est président du conseil d'administration de la Traversée et est fiscaliste, chez Raymond Chabot, Grant Thornton.